Artiste en liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.
Look at the
Bonjour les auditeurs de RVM. Bonjour Hervé.
Salut à tous.
Alors Hervé, on vient d'écouter une chanson qui était un tube dans les années 80. Tu peux nous en dire deux mots avant de présenter notre invité ?
Eh ben, t'as le look coco, un tube intemporel, disons, de La Roche-Valmont.
Et La Roche-Valmont, ça tombe bien parce qu'il est avec nous en insert téléphonique. Bonjour La Roche.
Soir bon, comme on disait dans les années 80, car nous étions chez Bran.
Voilà, ce que je disais, c'est qu'on était bléca.
Oh là là,
comme disait voilà. Mitterrand.
Ouais. Bon, bah, ça commence bien alors, hein, on est en pleine forme.
Eh bien, on est en pleine forme et en pleine liberté. Nous sommes des artistes en liberté, évidemment, et depuis maintenant 40 ans.
Donc, La Roche, on vient d'écouter « T'as le look coco ». Bah, c'est ce qui t'a fait connaître aux Français, puis même peut-être mondialement, alors.
Alors, aux Français, oui. Et mondialement, je m'en suis aperçu il y a 2 ans, quand j'ai voulu faire une sorte de best-of des différentes reprises de « T'as le look coco ». Je me suis aperçu que dans différents pays, c'était... aussi une chanson qui avait plu ou qui continuait à plaire, comme au Vietnam, où c'est devenu même une chanson traditionnelle de fin d'année, un peu comme Petit Papa Noël chez nous. Il y a eu 311 versions différentes, 311 chanteurs qui l'ont reprise depuis 1986.
Bon, alors La Roche, on va faire comme pour les autres invités, on va commencer d'abord... par faire une présentation générale. Tu nous dis un peu d'où tu viens, comment tu es arrivé à la musique, ton parcours.
Voilà, c'est une longue histoire.
D'où tu viens? Bah, tu viens de chez toi, et puis voilà.
Voilà, bah, je viens par ma famille de ma mère de Saint-Quentin, d'où mon prénom, ce qui n'est pas très original. Et puis, j'ai eu... la chance ou la malchance d'être envoyé de tous les établissements autour de chez moi, et j'ai atterri à Dole dans le Jura, dans un pensionnat de jésuites qui accueillait donc les élèves un peu turbulents de toute la France. Et c'est là d'ailleurs qu'il y avait aussi Cookie Dingler, qui lui venait de Strasbourg. Que nous étions en quelque sorte déjà des concurrents, des chanteurs, en tout cas dans la cour de récréation. On essayait de séduire les filles qui n'étaient pas très libérées à l'époque, dans les années 60. Et par le plus grand des hasards, on s'est retrouvés en avril 1984, car nos deux 45 tours sont sortis le même mois. Et on ne s'était pas revu depuis. On s'est un petit peu reparlé et on a fait quelques télévisions ensemble, et puis après, eh bien, de nouveau, on n'était plus sur les mêmes chemins. Lui, je crois qu'il avait repris un peu des cours de tennis qu'il donnait, enfin bon, moi, et je l'ai revu et on ne s'est plus quitté depuis sur la tournée Star 80 à partir de 2011. Voilà un peu mon parcours résumé très vite.
Mais comment t'es arrivé à la chanson ? Tu faisais de la musique déjà ?
Alors, donc dans les années 60, j'ai fait de la musique, enfin un grand mot, enfin je chantais, et d'ailleurs je commençais à composer aussi des chansons, avec aussi Hubert Félix Thiéphaine, qui faisait partie aussi du pensionnat.
Un bel allumé aussi celui-là.
Et c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait ma première prestation, je ne vais pas dire concert, première prestation sur scène. C'était un radio crochet et nous avions d'ailleurs perdu, on nous avait conseillé d'abandonner cette voie, mais enfin bon, ça n'a pas été le cas. Non, moi j'ai dans les années 70 été un éditeur de magazines et de livres sur les chanteurs, et ça m'a permis donc de voir un peu ce qu'était le showbiz. Et quand Hubert Félix-Stéphen est devenu une vedette de vraiment avec un parcours intéressant, un peu en dehors d'ailleurs de l'ensemble de ce qui se faisait à l'époque, c'était à la fin des années 70, ça m'a donné envie de moi-même tenter ma chance. Voilà, c'est ça qui a été un peu le déclic. J'avais oublié ce qui avait été ma première passion dans ma jeunesse.
Tu avais appris le piano ?
Alors, j'avais appris le piano et l'orgue aussi. C'était en 1963-64, le jazz arrivait et il y avait des gens comme Claude Nougaro qui me plaisait beaucoup, et c'était l'ancêtre du synthé. Il y avait un son qui était déjà un peu différent, et ça m'a donné envie de suivre des cours. Alors à Dole dans le Jura, il y a une cathédrale avec des grandes orgues. Et donc, de temps en temps, on pouvait entendre un son rock'n'roll qui n'avait rien à voir avec le répertoire habituel.
Est-ce que tu crois que c'est les radios libres qui t'ont permis d'avoir du succès ?
Alors, c'est à la fois les radios libres qui m'ont fait connaître, on va dire, au niveau national, mais ça, tout a commencé grâce aux DJ. Dans les années 80, le parcours habituel d'un tube, c'était d'envoyer un maxi aux DJ des discothèques les plus importantes de chaque région, et ensuite, on voyait qu'il y avait une réaction sur le dance floor, eh bien, les radios locales, puisqu'il y avait, à partir de 1981, des radios FM dans chaque ville. En réalité, il y en avait au moins une dizaine par département. Elles étaient souvent en relation avec les discothèques. Beaucoup d'animateurs des radios étaient aussi DJ ou inversement. Et donc, les radios nous programmaient et programmaient en priorité ce qui faisait danser. Et ensuite, les grandes ondes, comme on disait encore, puisque Europe numéro 1 à l'époque, c'était même pas Europe 1 et RTL, et donc écoutait attentivement ce que faisaient les radios FM, et c'est petit à petit, donc les chansons devenaient des tubes, mais donc ça partait vraiment des discothèques.
Ouais, donc c'était une époque qui est quand même très importante. Ça a permis de libérer quand même beaucoup de choses, hein. Notamment la musique, pour avoir une plus grande présence sur le territoire, hein.
Ah bah, ça a été une révolution totale, à tout point de vue. Donc, de toute façon, les années 80 ont initié tellement de choses. Tu parles de libéralisation, c'est vraiment le cas, mais dans tous les domaines. Bon, les radios pirates sont devenues des radios FM. Il y a eu aussi les télévisions qui se sont créées. À l'époque, on avait Antenne 2, TF1 et France 3. Il y a eu Canal Plus avec le Top 50. Ça, c'est aussi une autre révolution, puisqu'on s'est aperçu que les ventes de 45 tours en France n'étaient pas du tout ce que l'on pensait. Le premier Top 50, le 4 novembre 1984 précisément, ça a été plus qu'une surprise, puisque il n'y avait que des inconnus en tête de classement des ventes de 45 tours. Numéro 1, Peter Sloan, Besoin de rien, envie de toi. Il y avait Cookie Dingler, Femme libérée, Jeanne Masse, toute première fois, et un certain Laroche Valmont avec
Salut les petits clous.
Voilà, exactement. Et alors, Ils étaient dans les clous, je ne sais pas si c'est une expression, oui, enfin, ils étaient dans les choux plutôt. Johnny Hallyday n'était que 23e, et puis Michel Sardou, 48e, Frédéric François, je crois qu'il était 50e. Enfin, c'était vraiment, là aussi, une énorme surprise. Il y a eu aussi d'autres émissions et d'autres chaînes de télé qui se sont créées, et petit à petit, tout a changé. Et d'ailleurs, ce qui a changé aussi dans la musique, c'est que à partir de ces années-là, on n'écoutait pas seulement les chansons, on les regardait. Ouais. Les vidéoclips ont énormément apporté, et ça a aussi permis de faire connaître les musiques dansantes ou pas à un plus large public, puisqu'il y a même eu certains clips qui étaient de véritables petits films, par exemple évidemment Thriller de Michael Jackson, mais aussi Libertine de
Mylène Farmer,
et Pourvu qu'elle soit douce, je crois en 1988, a été même dans le livre Guinness des records comme le clip français le plus long, parce qu'il avait même 4 minutes de plus que Thriller, qui avait coûté le plus cher, dans les 500 000 euros à l'époque, et il y avait 500 figurants, quoi. C'était assez invraisemblable. Ça se passait, je crois, au 18e siècle. Enfin bon, il y a eu vraiment plein de choses nouvelles dans ces années 80, fort sympathiques, et je pense que c'est pour ça qu'on s'en souvient encore.
Ah oui, parce qu'en plus des radios libres, on avait les chaînes musicales. Parce que M6, c'était une chaîne musicale au départ, quoi.
Exactement. Ça a été. Enfin, il y a eu plusieurs formules, mais au tout début, ça a été uniquement des clips.
Métropole 6.
Voilà. Hein, et ensuite, ils se sont aperçus que c'était pour la France un petit peu trop pointu, et il n'y avait pas à l'époque autant de possibilités, je pense, de canaux, et c'est devenu une chaîne traditionnelle qu'on connaît maintenant, avec toujours une part de clips, hein, même le soir sur M6 en 2022, ils ont gardé cette tradition depuis Métropole 6, comme tu dis.
Alors, puisqu'on parlait des radios libres, là, j'avais une petite anecdote, là. Il paraît qu'on t'a retrouvé sur le toit d'une camionnette d'énergie en 84 pour manifester.
Ah ben oui, on m'a dénoncé. Tu me dénonces.
Je te dénonce. Il y a prescription en 84.
Oui, oui, il y a prescription, et il y a même, on va dire, ambition d'être, de revendiquer ça avec plaisir. Oui, alors les radios libres étaient devenues légales. Mais évidemment, les plus dynamiques essayaient toujours d'enfreindre la loi. Alors Énergie a été un pionnier en ce domaine. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par diffuser en toute la France, ce qui était interdit. Normalement, c'était régional. Et ensuite, ils avaient commencé à mettre de la publicité, ce qui était interdit au départ. Et ils avaient un émetteur tellement puissant que une radio qui normalement devait être uniquement diffusée sur Paris, on pouvait l'entendre jusqu'à Troyes, enfin Compiègne bien entendu, mais beaucoup plus loin encore. Tu vois. Et alors évidemment, il y a eu une mesure de rétorsion, ils ont été menacés d'interdiction carrément, et ils ont eu la bonne idée de faire une manifestation et qui a dépassé tout ce qui pouvait avoir été espéré, puisqu'il paraît qu'il y avait plus de 300 000 personnes dans les rues de Paris, et il y avait évidemment quelques chanteurs qui avaient voulu manifester eux-mêmes, et il se trouve que il y avait une camionnette qui dirigeait la manif, et j'étais sur le toit avec les meneurs. Il y a eu aussi Dalida qui était là, et d'autres avec les animateurs de la radio, en particulier Mitsou, qui est maintenant un petit peu, on va dire, rangé, puisqu'il est en Côte d'Ivoire. Mais j'annonce, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment se souvenir des années 80. Il va sortir un livre avec beaucoup d'anecdotes donc sur ses années énergie et les années même précédentes, puisque c'était un DJ de discothèque avant de devenir animateur de radio.
À ne pas confondre avec Picsou, hein, bien sûr. Donc, voilà.
Ah oui, oui, non, c'est pas quelqu'un qui est comme Picsou, très avare, ni de ses paroles, ni de son argent en général. Quelqu'un alors, très généreux qui a participé d'ailleurs à beaucoup d'actions de bienfaisance, aussi bien dans les années 80 que maintenant.
La Roche, ce que on peut faire pour les auditeurs, c'est ce que je te propose, c'est qu'on écoute un autre morceau, donc un morceau tout récent, cette année-là, Michel Drucker. C'est ton dernier tube, ça?
Exactement. Eh bien, avec plaisir.
Allez, on écoute et on se retrouve juste après.
Cette année-là, la, 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 la. 1984, Orwell n'avait pas tout prédit. Super Mario, super tapis, premier zénith ouvert par Renault. Femme libérée, t'as le loup coco. Sortez-moi moi 20 ans plus tôt. Cookie et moi, nous étions déjà vedettes du même pensionnat. C'est bon chic, bon chant. Partout t'as le look coco. Coco Chanel et Coco Girl. Partout t'as un coco coco. Mrouzi au JT 13h. Coco Coluche à Coco Coco. Coco Robin, Coco et Coco Boy. Cette année-là, tous les matins, sur Europe numéro 1, il y avait aussi Michel Drucker. Cette année-là, la la la. C'est la victoire de la musique. Tout commence, finit par des chansons. La musique est bonne. Musique dans la peau, pas mal donne. Cette année-là, rappelle-toi que les chanteurs sans frontières, c'était les chanteurs sans guerre. Cette année-là, rappelle-toi que Coluche et la rivière avaient dans les de Monac, Caroline Loeb, Jackie Quartz, Sabrina Patti et Elsa, Corinne Hermès, Annabelle, Emmanuel, c'est naturel. Ainsi font les petits bovenets. Trois petits 45 tours et puis s'en vont.
Cette année-là, rappelle-toi, en 1986, la Coupe du Monde au Mexique. Cette année-là, Louis Fernandez nous qualifiait. Tu devines qui les commentait.
Si tu nous regardes.
Année 2000, on n'est pas qu'une pochette de disques, un vieux clip passant en boucle sur YouTube. Karaoké vivant d'un vieux tube. Pas Stevie Wonder, One It Wonder, en FM, éphémère, courant d'air. On s'était pas dit rendez-vous dans 30 ans, mais on est toujours bien présent. Avec Michel Drucker, c'était retour vers le futur antérieur. Au théâtre, à la télé, l'avenir c'est les souvenirs. Et le meilleur, oh le meilleur est à venir.
Hervé, Michel Drucker, ça te rappelle des souvenirs quand même?
Il n'y a que des souvenirs, c'est d'actualité encore.
Il est toujours là en plus.
Il est toujours là, indémodable.
Ouais.
Alors, pour cette chanson-là, tu as écrit les paroles, la musique
Alors là, j'ai écrit les paroles et la musique, et effectivement, c'était un peu une manière de me moquer de nous, de lui, des années 80, tout en se rappelant de bons souvenirs. C'est vrai que nous sommes toujours présents, lui tous les dimanches, moi j'essaye sur les routes en concert et puis sur de nombreuses radios avec T'as le loup Coco et maintenant aussi avec cette année-là Michel Drucker qui a le plaisir de plaire à beaucoup. Bon, je pense aussi avec grâce aux paroles, mais j'ai essayé de faire une musique qui soit vraiment dans l'air du temps.
Et donc, éventuellement, si Michel Drucker t'invite, tu pourrais aller dans son émission, alors ?
Oui, oui, c'est prévu. Bon, pour l'instant, il y a beaucoup d'événements qui ont fait que ça a été reporté à la rentrée. Car, on va le dire, en dehors des élections législatives qui ont lieu un dimanche, il y a eu aussi le rugby, Roland Garros, qui font que beaucoup de ces émissions ont sauté ou ont été reportées. Donc voilà, c'est pour la rentrée. Mais bien sûr, bah, lui, il était au courant. Je lui avais envoyé dès que j'avais enregistré pour lui demander ce qu'il en pensait. Et puis, c'était une manière de lui demander son autorisation, puisque quand même... son nom est dans le titre de la chanson.
Oui. Donc, Michel Drucker, est-ce que tu avais participé à des émissions avec Michel Drucker dans les années 80 ?
Alors, forcément, dans les années 80, il fallait passer à Champs-Élysées. C'était le samedi soir. Oui. Et bon, moi, je m'étais permis un petit gag. Comme il avait une chienne qui s'appelait Zaza, qui était déjà... à l'antenne, parce que c'est pas nouveau hein, qu'il ouais. soit avec son chien, c'était je crois que même une tradition depuis les années 70. Alors moi j'avais déguisé en quelque sorte une chienne avec mon look, c'est-à-dire le Spencer noir, la cravate jaune, la pochette, bon, les lunettes, on avait essayé les lunettes mais c'était pas ça tenait pas, la casquette est partie en vrille et donc c'était de manière déjà ironique de me moquer gentiment de Michel Drucker et on va dire de son image.
Pour revenir à ta carrière, là, quand on a un succès d'un coup comme T'as le loup Coco, un succès immense, comment on réagit ? On est préparé à ça ? On n'est pas préparé ? Toi, ton ambition, c'était quoi ?
Alors... Bon, enfin, moi personnellement, j'étais préparé doublement, c'est-à-dire déjà dans les années 70, je voyais beaucoup de chanteurs débuter avec succès, d'autres qui essayaient de commencer à avoir du succès et qui n'y arrivaient pas, et puis d'autres qui avaient du succès depuis 10-15 ans, comme Johnny Hallyday ou Claude François. Bon, j'ai vu surtout toute une nouvelle génération au début des années 70 qui ont démarré. C'était à ce moment-là que j'avais créé des magazines qui ont eu autant de succès qu'eux, c'était Hit Magazine et Stéphanie, et il y avait Patrick Juvet, Mike Brandt, François Valéry, Dave, Gilbert Montagnier. Alors, tous, j'ai vu comment ils débutaient, comment ils avaient du succès, comment ils géraient plus ou moins bien leur succès. Je pense à mon pote Mike Brandt qui lui avait, ça lui posait plein de problèmes divers, et d'autres qui réagissaient parfaitement bien, et donc je connaissais bien le métier de l'intérieur. Après, moi, je, contrairement à beaucoup d'autres, je pense que ce qui est pas normal, c'est de ne pas avoir de succès. Donc, quand on enregistre une chanson, on se dit ça va être un tube. Ce qui est plutôt décevant, c'est quand une chanson ne devient pas un succès. Donc, si tu veux, moi, j'ai trouvé, entre guillemets, naturel, normal, que ça, que T'as le loup coco, donc, plaise sur la piste de danse, puisque j'avais fait appel au Gibson Brothers, qui était numéro un des hits des clubs dans toute l'Europe à cette époque, pour que ma chanson soit vraiment dansante. Bon. Donc, j'ai pas été spécialement étonné. En revanche, ce qui est toujours magique et surtout incompréhensible, c'est de sentir d'une semaine sur l'autre que la chanson plaît de plus en plus, quoi. C'est comme un incendie qui s'étend et qu'on n'arrive pas à contrôler. D'ailleurs, dans le cas présent, on cherche pas spécialement à l'éteindre, mais la magie d'une chanson, c'est que on ne sait pas pourquoi, et donc ouais. Ne cherchons pas à savoir pourquoi ça plaît. Ce qui est important, c'est que il y ait un certain public. Là, il se trouve que en plus, comme 4 ou 5 chansons des années 80, nous avons passé les générations et on se retrouve en 2022 à toujours entendre en radio ou en discothèque ou dans les fêtes de famille des chansons comme T'as le coco.
Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est après ce succès-là, qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que ça va être facile pour moi d'être chanteur ? Comment je vais faire pour avoir d'autres succès ? Est-ce que c'est là qu'on se pose des questions, non ?
Non, moi je ne m'en suis pas posé. C'est-à-dire que j'ai tout naturellement sorti un autre titre, un autre 45 tours, ouais, comme on disait. Ensuite, disons 8 mois après, c'était Ton signe à toi, c'est quoi. Sur la lancée, le titre est beaucoup passé en radio. Il est passé beaucoup moins en discothèque. J'ai fait des télévisions. Je le chantais sur scène parce que j'avais un spectacle qui a évidemment eu encore plus de succès avec T'as le loup coco. Et puis c'est plutôt au bout de quelques semaines où j'ai vu que le 45 tours Ton signe à toi c'est quoi ne se vendait pas autant que T'as le loup coco, que je me suis posé des questions, mais j'ai pas vraiment été déçu ni rien. Je me suis dit c'est comme ça, c'est la vie, et j'ai sorti un autre 45 tours à l'heure heureuse. Pour changer, c'était un slow en me disant on va tenter la chance. C'était l'été, je me dis ça va être le slow de l'été, et ça n'a pas été le slow de l'été. Ça ne m'a pas empêché de continuer de faire un autre 45 tours. À ce moment là c'était Faut pas décoder. Et je me suis dit ça va plaire, et puis ça n'a pas plu, voilà. Mais ça m'a semblé naturel de continuer à sortir des 45 tours et d'essayer de faire le mieux possible sans me dire je vais mettre tel ingrédient ou je vais faire telle chose à la place de tel autre. Et c'est au bout de 5 ans que j'ai compris que j'étais pas devenu la vedette que j'espérais être, et que j'ai arrêté d'ailleurs de chanter en pensant définitivement avoir raccroché. C'était en 1989, je me suis dit je vais complètement arrêter, je vais vivre un peu ma vie tranquillement. Et j'ai fait un challenge. Je me suis dit, au lieu de faire une année sabbatique, je vais faire une décennie sabbatique et je vais faire le tour du monde des lieux festifs. Tu sais, à l'époque, il y avait les débuts de Miami, par exemple. Et donc, je suis allé. Je passais souvent 3 mois, puisque pour des raisons de visa, on était obligé de revenir en France ou de changer de pays. Ensuite, je suis allé à Rio, à Cuba, à Ibiza, au Vietnam d'ailleurs aussi, au Sénégal où il y avait une scène très, très musicale et très festive qui démarrait. Et donc j'ai passé les années 90 tranquillement et complètement en dehors du temps, alors que mes collègues du top 50, Jean-Pierre Madère ou Cookie Dingler, par exemple, ont vécu les années 90 comme une traversée du désert, en quelque sorte, quoi. Et là, ça a été un retour de bâton parfois assez dur. Et donc, il a fallu, au début des années 2000, des émissions comme celle du le grenier, c'était quoi, les pubs du grenier de Michael Youm le matin, je sais pas si tu te souviens, et il y avait une séquence avec une vidéo un clip quoi de des années 80 qui ressortait du grenier, c'était sur M6 les mornings. Alors on se souvient aussi de ce célèbre porte-voix, il se promenait tout nu un peu à droite à gauche. Ouais. Et ça fait redémarrer une vogue des années 80. Il y a eu aussi des émissions comme Retour gagnant sur TF1, où les chanteurs des années 80 venaient en compétition, en quelque sorte, un peu comme The Voice ou autre, et c'était Julie Pietri qui avait gagné d'ailleurs une année, et petit à petit, donc il y a eu des organisateurs de concerts qui ont eu envie de nous revoir sur scène, et le public a suivi, et c'est devenu peu à peu la tournée Star 80 qui a fait pendant 10 ans le tour des zéniths, des grandes salles de France. On a même fait 3 stades de France, quoi.
Oui. Ah oui. Et pendant les années 90, c'était la croisière s'amuse. Alors voilà.
Voilà, exactement. Non, mais
à l'inverse de Jean-Pierre Madère, de Cookie Dingler, toi, tu n'avais pas que la chanson. Tu avais plusieurs choses dans ta vie. Tu avais plusieurs centres d'intérêt. Il y avait le sportswear, il y avait les éditions. Voilà, même dans les années 2000, tu faisais encore éditeur. Donc ça t'a permis quand même de bien vivre.
Alors oui, effectivement, pendant que l'ensemble des chanteurs, disons du top 50, les années 80, c'était valable aussi pour Gold, pour Image, en plus de Jean-Pierre Madère,
oui, et Julie Pietri, Miller, tous ces gens-là. Quoi.
Voilà, ils étaient dans des orchestres de bal et ils ont vraiment appris leur métier comme ça pendant des années où j'étais moi patron d'une maison d'édition de livres et de magazines. Et j'ai eu la possibilité de très bien gagner ma vie et aussi de ne pas avoir eu de problème une fois que les années 80 se sont peu à peu éteintes. Et donc j'avais effectivement aussi d'autres centres d'intérêt que la musique. C'est vrai que parmi les livres que j'ai édités, il y avait le programme peu commun de Coluche pour les érections pestilentielles, comme il disait. Bon, comme vous le savez, il n'a pas gagné les élections, mais en tout cas, on a gagné en bons souvenirs ensemble, en tout cas. Et j'avais donc dans les années 90 déjà, bon, aucun problème d'argent, et surtout je ne me posais pas trop de questions, même pour mon avenir, puisque à partir de 2000, j'ai repris mon activité d'édition que j'avais complètement arrêtée, et j'ai eu la chance, même peut-être, de connaître encore plus de succès avec des magazines comme RAP, qui était le magazine du rap français, qui à cette époque-là démarrait. C'était une épopée d'ailleurs aussi extraordinaire que celle que nous avions vécue dans les années 80 avec Doc Gineco, Passy, NTM, IAM et Diams et plein de rappeurs qui ont explosé complètement hein, pendant les années 2000. Et donc j'avais ce magazine, j'avais aussi un magazine de rock, et donc j'ai vécu de 2000 à 2011 précisément, avec totalement en tête de ne pas recommencer la chanson. Je voyais apparaître donc des plateaux avec des chanteurs que j'avais bien connus, et je me disais, tiens, ça pourrait être éventuellement sympathique de me joindre à eux, mais bon, j'étais à la tête d'une entreprise, il y avait 70 salariés, donc je pouvais pas faire le patron dans la semaine et puis faire tel look coco le week-end, et surtout m'intégrer à une troupe, parce que Star 80, c'est une véritable troupe, et on est qu'un élément. Enfin, il y a une vingtaine de chanteurs qui ont tous au moins connu un tube, et donc c'était un peu compliqué. Et puis, bon, bah, pour tout dire, j'ai fait ce qui a été peut-être commercialement le coup invraisemblable de ma carrière d'éditeur. En 2011, il y a eu le mariage de William et Kate. J'ai édité l'album officiel de ce mariage, qui a tellement bien marché que ensuite Albert de Monaco, qui se mariait 3 mois plus tard, m'a demandé de faire la même chose. Donc je l'ai fait, et là, bon, ça a été à nouveau un succès, et j'ai décidé de prendre ma retraite d'éditeur à ce moment-là. Voilà, terminé comme ça. Et je me suis évidemment tourné vers mes potes des années 80, et j'ai intégré la Star 80, et j'ai retrouvé à la fois Richard Sanderson, qui a coécrit la musique de Talelou Coco, mon pote Cookie Dingler, donc combien ça fait de 2011, je sais même plus combien, ça doit faire 50 ans plus tard, non, à peu près, et d'autres, Jean-Pierre Madère, enfin toute la bande, Images, Début de soirée,
Patrick Coutin, voilà. Et compagnie.
Alors Patrick Coutin, il est venu plus tard. Oui, oui. Ah, ouais. En fait, moi, il y a plusieurs générations dans la génération années 80, parmi les chanteurs. En quelque sorte, il y a eu avant et après, on va dire, énergie. C'est-à-dire Patrick Coutin, Jean Schultheis et Thierry Pastor, par exemple, qui ont fait des tubes à partir de 1980, 81, 82. Ils ont été connus surtout grâce aux grandes ondes à l'époque. Les radios FM ne faisaient que démarrer. Et puis, à partir, on va dire, de 84 à peu près, c'est Energy qui a vraiment été la radio numéro un, qui a imposé l'ensemble des chansons. Et il y a une nouvelle génération, c'est Cookie Dingler, Jeanne Masse, Jean-Pierre Madère, plus tard Images, Gold, etc. Et on n'a pas connu, moi je n'ai eu aucun rapport, aucun concert, aucune télévision avec, disons, les chanteurs de la première génération. Mais évidemment, on les a retrouvés ensuite sur Star 80. Patrick Coutin est d'ailleurs le seul avec moi, et Julie Pietri a continué à sortir des nouvelles chansons. Patrick va sortir là ces jours-ci un nouvel album, et Julie Pietri a aussi sorti un nouvel album avec des chansons qui sont, elle comme moi, très 2022, et je les recommande à vos auditeurs.
La Roche, on va se dépêcher parce qu'on est pratiquement à la fin là, on a beaucoup avancé. On passe la chanson « Je suis un maniaque des manettes ».
Eh ben, si tu le dis, on la passe.
On y va ? Allez, c'est parti.
Thank you.
je suis un maniaque des manettes. Donc, toi-même, es-tu un maniaque des manettes ?
Je l'étais. Et c'était un grand mot, les manettes. C'était pas encore les joysticks à l'époque. Et car nous étions là aussi, les années 80 vont être pionnières. Nous en étions à Pac-Man, dans le meilleur des cas, et à ping-pong en noir et blanc. Alors, il fallait aller dans les arcades. Il n'y avait pas encore les consoles, mais il y avait des salles de jeux avec des jeux vidéo, et on dépensait des sommes folles d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup ça. Moi, j'étais assez basique. J'aimais les briques. Tu sais, c'était
des
murs de briques.
Oui.
Voilà.
Ouais. donc je voulais savoir quand commence la tournée années 80 Story en compagnie de ton groupe Comeback 80, s'il te plaît.
Alors, c'est une nouvelle aventure pour moi, et c'est surtout ce qui me tient le plus à cœur avec cette année la Michel Drucker et les nouvelles chansons que nous produisons ensemble. En direct de Chantilly, où se trouve le studio, avec le groupe Comeback 80 qui est de Compiègne et qui, depuis une trentaine d'années, reprennent les chansons des années 80 et accompagnent de nombreux chanteurs de la décennie. Ils ont en particulier accompagné Gérard Blanc pendant 7 ans. On s'est rencontrés à Compiègne, d'ailleurs, lors d'un concert, et on a tout de suite matché, comme on dirait maintenant, et on a décidé de faire un spectacle qui est une manière de raconter les années 80 en tube. On chante donc les plus grands succès avec des anecdotes pour les présenter. Et on le fait dans l'ordre chronologique de leur sortie. Donc, nous allons démarrer par de Ottawa, et on terminera par Place des Grands Hommes, voilà, et au milieu, il y aura tous les grands tubes, Quand la musique est bonne, Les démons de minuit, etc. Et donc, c'est un spectacle qui va démarrer la première, et évidemment, dans les Hauts-de-France. C'est le 25 juin à La Bourse, dans le Pas-de-Calais. Et nous espérons que passer dans toutes les régions, et c'est pas uniquement donc pour les Hauts-de-France, et arriver à la fin de 2023 sur Paris. Voilà.
Donc à suivre ton actualité. Ah, on fait comment pour suivre ton actualité, La Roche, s'il te plaît ?
Ah bah c'est très simple, c'est sur Facebook, voilà. Donc tous les jours, je publie tout ce qui peut être intéressant me concernant.
Et on peut noter aussi que depuis le mois de février, tu as ressorti tes 7,45 tours. C'est ça, hein ?
Ah, voilà, exactement. Nous avons, pour la première fois, mis sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement l'ensemble de mes 45 tours des années 80, avec les maxis et des remixes divers, y compris des remixes de cette année.
Voilà, tu appelles ça un voyage musical en 7 temps. Hervé, je te laisse conclure l'émission. Non,
simplement la précision, donne aux auditeurs ton Facebook. Comment il s'intitule ?
Alors, c'est Jean-Quentin Laroche-Valmont.
Ouais, Jean-Quentin Laroche-Valmont.
Alors, Hervé, je te laisse conclure l'émission.
Oui, moi j'ai juste un petit reproche à te faire, c'est de ne pas être à la radio, quoi. Donc on espère avec Fred que dès que tu auras un petit moment, dès que tu passes vers Crépy-en-Valois, tu viens nous faire un petit coucou.
Ah ben, c'est pas dès que, ce sera forcément cet été. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas passer par là. J'ai une dizaine de concerts, on va dire, dans le haut des Hauts-de-France. Donc, je vais à un moment donné être obligé de venir vous voir.
Voilà. On n'est pas loin de Compiègne.
On est tout proche de Compiègne.
Oui, oui, oui. Oui.
Et mais puis c'est, on pourra parler de Star. Moi, j'ai vu Star 80, je t'ai vu à Amiens. Hein.
Ah, donc, voilà, d'accord.
On pourra parler de tout ça.
Exactement. Avec plaisir.
Voilà, j'ai préparé comme chanson. Ton signe à toi, c'est quoi?
Et toi, c'est quoi ton signe?
Moi, c'est Balance.
Eh ben, écoute,
Capricorne.
Bon, ce sont des signes
allez, je balance.
Parfaitement compatibles avec le cancer.
Ah ben voilà. Cancer, eh ben voilà.
Voilà.
Cancer, c'est mois de juillet. Hein.
Ouais.
C'est ça?
Ouais, ouais, non, 22 juin.
Ah ouais, 22 juin jusqu'au ouais,
non,
20 juillet.
Non, mais t'as raison. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est 20 okay. juin et juillet.
Voilà, ça correspond avec le début de la tournée. Alors, tout ça, c'est voilà. Calculé, hein, bravo.
Ah, oui, oui, hein. Quel talent, quel talent.
Est-ce que tu as demandé à Françoise Hardy?
Oh oui, voilà.
Merci, Laroche, d'avoir consacré un peu de temps par insert téléphonique pour notre émission Artistes en Liberté. On te retrouve sur les routes de France pendant cet été.
À très bientôt, merci.
À très bientôt. Fois. Merci, ciao. Hervé. On se quitte en musique avec ton signe à toi. C'est quoi? Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir. Salut. Merci Laroche, au revoir.
Cimer.
En liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.